Nous allons donc amorcer la dernière séance de cette conférence. Notre prochain conférencier est Dr. Michel Carrier, qui va nous parler de la performance des comités d'éthique, comment améliorer la qualité de la révision éthique. Dr. Carrier est chirurgien cardiovasculaire et thoracique. Il a une maîtrise en épidémiologie clinique, une maîtrise en administration des affaires. Il est chirurgien cardiaque à l'Institut de cardiologie de Montréal, professeur titulaire au département de chirurgie de l'Université de Montréal. Il est directeur médical à Transplant Québec, président du comité d'éthique de la recherche et au développement technologique de l'Institut de cardiologie de Montréal, et chef de la division de chirurgie cardiaque du département de chirurgie de l'Université de Montréal. Sur ce, après cette énumération impressionnante, j'invite Dr. Carrier à vous adresser.
Merci, je ne m'y attendais pas vraiment. Je m'excuserai un peu, là, j'ai un peu de difficulté à m'exprimer, j'ai un mauvais rhume. Je remercie les comités organisateurs et scientifiques là, pour l'opportunité qui m'est offerte, en fait, de répondre ou de tenter de répondre à la question suivante. Comment améliorer la qualité de la révision éthique dans le cadre de la performance des comités d'éthique? Je vais insister sur le mot « performance, qualité et révision » au cours de cette très, très brève présentation. J'ai pas de conflit d'intérêt là-dessus, là. Je vous dis ça tout de suite. Et j'aimerais aussi remercier d'abord mes collègues au comité d'éthique. Peut-être que je ne représente pas vraiment entièrement leur opinion ici personnelle, mais j'ai eu beaucoup d'aide au cours des années. J'ai eu la chance de travailler avec deux avocates, deux éthiciennes, plusieurs membres du public. Un comité chez nous avec une permanence qui est assez extraordinaire. Et Sylvie, que je remercie pour le travail au quotidien. Alors, ce que je vais exprimer là, c'est un peu, disons, une réflexion personnelle sur ce qu'on a vécu dans les 10 dernières années au comité d'éthique chez nous, à l'Institut de cardiologie de Montréal. Ça va recouper un peu ce qui a été dit aujourd'hui, vous allez voir. On a un peu les mêmes préoccupations, ce qui est quand même rassurant, là. Ça veut dire qu'on n'est pas toujours complètement à l'extérieur de là où on devrait être. Encore une fois, les bases de cette présentation-là sont vraiment sur la recherche clinique médicale dans le domaine de la maladie cardiovasculaire. Là, je m'excuse, c'est la seule chose que je connais dans ma vie. Les essais cliniques, les études de cohorte, les bases de données cliniques. Plus récemment, le volet génétique qui nous est apparu, et j'insiste sur ma formation. Moi, j'ai une formation chirurgicale, alors on est loin des gènes. Et ça nous a pris un certain temps, moi, comme tout mon comité, à s'attaquer à cette section-là. Il a fallu le faire de façon très, très lente. Il a fallu avoir beaucoup de formation et je vais y revenir tantôt là-dessus. Chez nous, ce qu'on fait, c'est des études de phase 2, de phase 3, des études de post-marketing plus récemment. Développement technologique en quantité abondante. Il y a beaucoup de développement technologique en maladie cardiovasculaire dans les 10 dernières années. C'est assez étonnant. Pharmacologique, beaucoup. Génétique, comme je vous dis, c'est nouveau. Nouveau, pas trop très nouveau, mais dans tous les projets maintenant, on voit un volet génétique qui nous attire, à lequel on doit porter un certain jugement, un certain encadrement, et aussi pharmacologique. Il faut dire que notre domaine de spécialité est un domaine qui est extrêmement mature. On a 40-50 ans maintenant d'expérience avec des essais cliniques randomisés. On a le contrôle de la pathologie cardiovasculaire de façon assez, je dirais pas précise et complète, mais ça complexifie beaucoup notre rôle parce que tout ce qui est nouveau maintenant s'ajoute à des jeunes pharmacologies, à des traitements qui existent et il faut être en mesure de les évaluer. Notre rôle en maladie cardiovasculaire, c'est de sauver des vies, mais aussi il faut bien se rappeler que les technologies qu'on va appliquer, la pharmacologie qu'on va appliquer a des effets secondaires extrêmement sérieuses, dont le décès. Je souhaite répondre aux quatre questions suivantes dans le cadre de cette présentation-là. Comment définir la qualité? Ouf! Je vais aller très brièvement là-dessus. C'est pas vraiment facile. Il y a beaucoup de gens qui sont bien mieux que moi qui y ont répondu depuis dans les deux dernières journées. Qu'est-ce que la performance pour un comité d'éthique? Ça, par exemple, j'en ai pas beaucoup entendu parler depuis deux jours et je vais essayer de m'attarder un peu là-dessus. Comment la mesurer, cette performance d'un comité d'éthique? Encore une fois, avec un œil ou une orientation extrêmement biaisée, celui d'un comité d'éthique dans une une institution ultra spécialisée dans un domaine très, très précis. Et puis, en fait, je vais conclure la dernière question, répondre à la dernière question en disant comment améliorer la qualité de la révision éthique et donc la performance du travail au comité. Je vais m'étendre un peu plus loin que la révision éthique parce que pour moi, le comité d'éthique ou le travail éthique ne se limite pas à la révision ou à la réunion, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais je pense que le comité d'éthique a un rôle qui est beaucoup plus large dans notre institution, du moins je l'espère. S'il n'a pas un rôle plus large au cours des dernières années, c'est le temps que je me réveille. Des fois, ça peut être ici. Comment définir la qualité? Je n'insisterai pas trop là-dessus. Tout le monde a essayé de définir la qualité. Il y a des gens qui sont bien plus forts que moi dans ce domaine-là. Et vous voyez, là, on tente de définir la qualité depuis 350 ans avant Jésus-Christ. Alors, je ne vais pas m'y attarder. En éthique, qu'est-ce que ça veut dire la qualité pour moi? En tout cas, définition extrêmement simple. C'est le travail bien fait. C'est le participant qui est bien approché pour la recherche. C'est le participant qui comprend bien ce à quoi il s'engage en participant. C'est un participant qui est bien informé des risques, des bénéfices et des droits, de ses droits, il en a. C'est un participant qui est satisfait de son expérience aussi. Mais il faut dire que c'est un projet qui est satisfaisant avec une équipe confiante puis un chercheur qui est conscient de ses responsabilités. Peut-être un peu complexe, mais c'est un peu la façon dont je suis capable de résumer la qualité de ce qu'on peut faire en éthique, chez nous en tout cas. Maintenant, qu'est-ce qu'est la performance pour un comité d'éthique? Ça aussi, c'est pas facile. Est-ce que c'est le temps d'acceptation d'un projet d'éthique? Il me semble que ça fait longtemps qu'on parle de multicentrisme et de temps d'acceptation. Il y a peut-être d'autres métriques. Est-ce que c'est la longueur du formulaire de consentement? Chez nous, on essaie de les limiter, mais honnêtement, c'est devenu une problématique. Est-ce que c'est le taux d'acceptation après lecture du formulaire du consentement? Est-ce qu'un nombre, c'est le nombre d'événements rapportés au cours de l'exécution d'un projet? Ce sont des événements très, très sérieux, des décès ou des effets secondaires très lourds? Ou est-ce que c'est la satisfaction des personnes recrutées pour l'étude? Je pense que le mot performance est difficile à cerner. C'est en fait l'ensemble des éléments décrits précédemment, de la soumission du projet à l'évaluation, la mise en place, le déroulement, la conclusion et le suivi du projet. Et je pense que, encore une fois, c'est extrêmement large. Je pense que la performance est caractérisée par l'acceptation et le support d'un projet qui se déroule bien selon le suivi de recherche prévu, sans complications imprévues, à la satisfaction des chercheurs et des participants. Il y a aussi une conclusion au projet de recherche et une implication clinique et sociale. On parlait ce matin de projets de recherche qui sont extrêmement intéressants, extrêmement bien faits, et la mécanique d'un projet de recherche est maintenant connue de tout le monde, là. On va s'asseoir avec un biostatisticien, on est capable de vous donner exactement le nombre de malades ou de participants qu'il faut recruter pour prouver quelque chose, documenter quelque chose, mais il faut qu'au bout de la ligne, le projet soit utile à la société. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'y participer. Donc, la performance peut être définie de cette façon. Maintenant, comment la mesurer, cette performance? Il y a des éléments quantitatifs, je pense. Des événements quantitatifs à laquelle on ne s'est pas beaucoup attardé au cours des dernières années, mais il faudrait quand même les regarder. Le temps pour l'évaluation d'un projet, les événements indésirables, qu'ils soient sérieux ou bénins. Est-ce qu'on regarde le taux de compréhension et d'acceptation? Après la lecture des formulaires de consentement, on a entendu beaucoup parler hier de littératie. J'avoue que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et ça m'a étonné même parfois. Est-ce qu'on regarde le taux de recrutement, d'exécution selon le protocole mis en place, le taux de déviation de protocole, le taux de satisfaction des participants? Ça aussi, ça peut être intéressant. Et je pense que ce sont des éléments quantitatifs qu'on devrait revoir. Sur le plan qualitatif, la compréhension de l'évolution de la science clinique dans le domaine de l'étude des membres du comité, et je vais y revenir un petit peu plus loin, sur le plan de la formation et du professionnalisme, peut-être que ça a été mentionné la présentation précédente. La qualité du formulaire de consentement qui permet la compréhension, ça aussi c'est un élément qui est qualitatif, et le support qu'on est capable d'accorder soit au projet, soit aux participants, soit aux chercheurs dans notre propre milieu. La connaissance des membres du comité du domaine étudié est devenue, à mon avis, à moi en tout cas, extrêmement importante, surtout dans des domaines extrêmement surspécialisés comme le nôtre. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je vais simplement pour revoir un diagramme à laquelle je vais introduire deux petites notions très simples. Dans les études qu'on peut diviser en thérapeutique et nous en disons, développement d'examen diagnostique, on a un concept qui a été effleuré tout à l'heure, clinical equipoise ou l'équipoise clinique ou la notion d'équilibre clinique et d'incertitude. Si on va dans les examens diagnostiques, on a la notion du risque acceptable, d'ailleurs qui s'applique dans les deux types d'études. Les membres du comité doivent être en mesure de reconnaître cette notion ou ces notions de risque acceptable et ces notions aussi d'équilibre ou d'incertitude pour être capable de bien juger la pertinence d'un projet de recherche. Et donc, il faut avoir un certain nombre de connaissances minimales du domaine étudié. Et je vais y revenir tout à l'heure à la formation des membres du comité qui est probablement tout à fait essentielle. En tentant de réfléchir maintenant un beau soir à ce que le comité me demandait de présenter, je voulais savoir, au cours des quelques dernières années en cardiovasculaire, est-ce qu'il y a eu des accidents? Est-ce qu'on a vu des choses qui se sont produites dans le domaine de la recherche? J'étais un peu surpris de vous constater assez rapidement que, il y a une couple de collègues cardiologues dans certains pays qui ont eu certaines difficultés, semble-t-il. Il y a une couple de molécules avec lesquelles on est un peu familier maintenant, ont eu des difficultés dans certains projets de recherche et même certaines compagnies dans les parties du monde qui sont moins accessibles ont fait des travaux de recherche avec un certain nombre de difficultés. Mais au Canada, on n'en a pas eu vraiment. Je regardais The Globe and Mail, Toronto, projet de recherche en chirurgie, rapportait qu'il y avait eu certaines difficultés en Europe. Et je n'ai pas besoin de rappeler ce qui s'est passé ici à Montréal il y a un certain nombre d'années où on avait fait vraiment le tour de l'Amérique du Nord pour certaines difficultés dans les projets d'éthique. On n'a pas encore éliminé tous les risques liés à la pratique de la recherche. Il y a des nouveaux risques liés à la mondialisation. Il y a des anciens risques. Il y a des nouveaux mécanismes à maîtriser. Il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire ici, là, en améliorant la qualité de notre travail dans les différents comités. Si je reviens au principe de base, pour la performance du comité, en tout cas, je pense qu'il faut mettre le patient ou le participant, là, on est toujours un petit peu mêlés, au centre de l'évaluation éthique. Peut-être que la mécanique est un petit peu moins importante, et au cours des dernières années, on a beaucoup parlé de mécanique, multicentrique, mais quand même. Il y a quand même un minimum pour atteindre une certaine qualité, parce qu'il y avait le mot « qualité » dans le titre de cette présentation. Donc, monitoring quantitatif, je vais y revenir, information suffisante pour supporter le monitoring quantitatif. Dans les gros essais multicentriques, on reçoit énormément d'informations. La difficulté qu'on a, c'est de la traiter correctement. Le monitoring qualitatif, visite interne, mécanisme d'agrément, je vais y revenir. Puis les outils, on aurait besoin d'outils plus standardisés, je pense, pour faire ce monitoring. Questionnaire de satisfaction des participants, on vous en a présenté un hier. Un questionnaire d'auto-évaluation des membres de comité, documents pour visite interne. Pas quelque chose que nous n'avons pas de façon formelle. On le prend, on le développe, on fait des choses un peu locales, mais on n'a pas beaucoup de support externe, on n'a pas beaucoup de mécanique externe qui nous permet de bien le faire. À la quatrième question, qui est comment améliorer maintenant la qualité de la révision éthique, et encore une fois, je l'ai dit au début, je suis allé un petit peu plus large que la révision éthique, je suis allé sur la performance du travail au comité, et j'espère que le comité organisateur va m'excuser d'avoir fait ça. Alors, je vais aller avec un certain nombre d'hypothèses, de suggestions que vous pourrez, à laquelle vous pourrez réfléchir, qui me fera plaisir de discuter avec vous après la rencontre, si vous le voulez. Premièrement, on l'a mentionné au départ, il y avait une conférence sur le professionnalisme tout à l'heure, Dr. Cournoyer, et je pense que je suis d'accord avec vous. D'abord, on doit parler de formation continue éthique et clinique des membres. On n'a pas le choix. Il faut connaître l'évolution générale des connaissances cliniques faisant l'objet des études qu'on analyse, et il faut former les membres. On peut former les membres de toutes sortes de façons. Chez nous, on le fait par de façon, d'ailleurs, sans trop y réfléchir, simplement quelques petites capsules sur des sujets très, très précis lorsqu'on avait à le faire. Mais cette formation des membres est absolument importante. Il faut se donner au comité, ce qui est vraiment pas facile, du temps de réflexion, d'analyse, de discussion, au sujet de certains thèmes aussi, confidentialité, approche du participant, développement technologique et des sciences cliniques. Lorsqu'il y a certains projets qui nous apparaissent, qu'on n'avait jamais vus, à laquelle on n'était pas familier, je vous donne un exemple. Il y a quelques années, on a vu apparaître des projets de recherche nouveaux sur hyperlipidémie, diabète et maladies coronariennes avec une médication pour contrôler le diabète et l'hyperlipidémie, à laquelle, encore une fois, le comité était un petit peu inconfortable. Même sur le plan scientifique, on était un peu inconfortable. Et on a organisé quelques séances, toutes petites, juste savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça, où est-ce que la technologie va, où est-ce que les sciences cliniques vont et quel est notre rôle et comment on peut le jouer correctement. Alors, je pense que la formation, encore une fois, et éthique et clinique des membres, c'est vraiment l'une des pierres angulaires de ce qu'on doit faire. On devrait aussi avoir, je crois, en deuxième item, un système de monitoring de la qualité et de l'efficacité des comités d'éthique. On n'aura pas le choix. Est-ce que c'est un mécanisme d'agrément, d'audit périodique? Ce sont des rapports, je ne sais pas. L'OMS, en 2011, le recommandait. Il recommandait qu'il y ait un mécanisme d'agrément ou d'audit pour les différents comités d'éthique. Et peut-être que ce serait une façon d'évoluer correctement et de savoir un peu qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on devrait faire et comment le faire mieux. Mesure et monitoring de données quantitatives décrites précédemment pour chacun des projets. Est-ce qu'on peut développer des indicateurs quantitatifs de performance pour certains projets, moyenne de temps, d'événements défavorables, de complications de décès par rapport à les catégories de projets? Est-ce qu'on peut informatiser certains de ces processus-là, collecte des données, déviation de protocole, SAE? Peut-être que ça nous permettrait de comparer certains projets dans certaines catégories. Je donne un exemple. Il y a beaucoup de projets actuellement avec des nouvelles molécules anticoagulantes, qui sont tous plus efficaces les unes que les autres. Et ces études-là, en général, sont multicentriques, internationales, avec des milliers de malades à l'intérieur, à laquelle nous, on participe. OK, c'est intéressant. Il faut y participer. Ça répond à une problématique clinique qui est majeure. Cependant, comment la monitoriser? Pas facile. Parce que là on reçoit des rapports d'événements sérieux. Les événements sérieux, dans ces cas-là, ce sont des AVC, des accidents cérébrovasculaires liés ou non à la médication. C'est extrêmement difficile pour le comité de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça, comment on le fait, sans avoir une certaine informatisation et sans être capable de bien le juger. Oui, on va se fier au DSMB. Nous, localement, on essaie de faire le monitoring local plus complet, mais lorsqu'on participe à ces études internationales-là, encore une fois, c'est extrêmement difficile de savoir où le projet s'en va. Et ça pourrait être, l'informatisation de ces données-là pourrait nous être fort utile pour être certain qu'on demeure dans la bonne traque. Questionnaire, j'y vais à l'item numéro 4, questionnaire de satisfaction des participants et des chercheurs des différentes institutions. Je crois qu'il faut connaître l'opinion des participants sur les différentes étapes du processus éthique, consentement, déroulement, etc. On l'a fait à quelques reprises. Hier, on vous a demandé, on vous a montré hier le rapport d'un petit questionnaire qu'on est allé donner à nos propres participants. On voulait savoir un peu qu'est-ce qui se passe. J'avoue que j'ai été particulièrement étonné de la satisfaction des gens, étonné favorablement. Là, je veux dire, je pensais qu'on aurait un peu plus de critiques que ça. Je dois vous avouer humblement qu'on l'a fait aussi au niveau des chercheurs. C'est peut-être beaucoup plus difficile à recevoir. Bon, étant dans le groupe moi-même des chercheurs pendant plusieurs années, j'avoue qu'on s'est assis un petit peu, on l'a regardé. Je vous avoue que la grande critique, c'est toujours la même chose. Le temps que ça prend pour le formulaire de consentement et les corrections que vous nous demandez de faire pour le formulaire de consentement. Alors, ça, c'est les deux grandes critiques qu'on a. On a essayé de les adresser, on a essayé d'accélérer le phénomène, mais je vais y revenir tout à l'heure et je vais vous expliquer pourquoi nous, on est pris avec une problématique qui est parfois désagréable et déraisonnable. Cinquièmement, un mécanisme de visite interne périodique. Sylvie l'a mentionné hier, il y avait eu un mécanisme qui avait été mis en place il y a longtemps, on l'avait un peu oublié, on l'a fait renaître. On a commencé les visites périodiques des équipes de chercheurs, évaluation des approches des participants, développer une approche standardisée pour les visites internes. Ça permet de comprendre ce qui se fait sur le terrain. Ça dépend comment on veut le faire. Je pense que nous, on le fait de façon, je l'espère, en tout cas non agressive, extrêmement collaborative. On voulait, nous, aller se renseigner sur comment ça se passe sur le terrain, parce que ce sont des infirmières cliniciennes qui le font. Et je pense que l'échange qu'on a pu obtenir avec ce type de mécanisme nous aura aidé, nous, à mieux comprendre. Je pense que nous a aidé les équipes à mieux comprendre aussi dans quel niveau, nous, on doit évoluer au niveau du comité d'éthique. Je pense que les échanges entre les deux groupes ont été excellents et c'est certainement quelque chose qu'on va continuer à faire la promotion. On voulait mettre en place aussi en sixième an un espèce de questionnaire d'auto-évaluation de la performance des membres du comité d'éthique. On veut développer un questionnaire standard pour que les membres du comité peuvent nous dire un petit peu, des fois à mot couvert, sans vraiment que ce soit désagréable, peuvent nous exprimer du moins ce qui se passe, ce qu'ils ressentent et les correctifs qu'on peut y associer. On est à le faire, j'avoue qu'on ne l'a pas fait encore, mais c'est dans les objectifs pour les mois qui s'en viennent. Et je pense que c'est quand même, si on veut parler de formation des membres du comité, si on veut s'assurer que les membres du comité comprennent bien, je pense que c'est un questionnaire qui pourrait nous être très intéressant pour essayer de répondre aux besoins, parce qu'il faut quand même comprendre qu'on a des membres du public, pour eux c'est un peu plus difficile à nous suivre souvent, et peut-être qu'ils ont des besoins plus particuliers encore de formation à laquelle on aimerait répondre. On doit avouer que nous sommes hyper chanceux, les membres du comité les membres qui sont les représentants du public, nous, on sont là depuis déjà quelques années. Ils ont quand même une bonne expérience. Ils en ont vu d'autres. Et souvent, ils nous corrigent assez facilement. C'est pas un problème. Ils se le permettent. Septième et huitième hypothèse ou recommandation. Je pense qu'on devrait avoir des visites, des rencontres, des discussions, des présentations entre les membres du comité d'éthique d'un même RUIS, d'une même région, mais il faudrait qu'on commence à sortir de nos murs et aller voir un peu ailleurs comment ça se passe et qu'on échange entre les comités. Malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, là, vous êtes tous hyper occupés, autant que moi, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va devoir essayer de, je ne veux pas dire institutionnaliser, c'est pas vrai, mais on en a parlé hier avec les gens de Sainte-Justine, on l'a fait il y a 2 ans avec Maisonneuve, Chum, en tout cas tous les hôpitaux qui sont pas trop loin, là, que c'est pas compliqué à faire. Je pense qu'on a intérêt à aller voir ce qui se passe ailleurs, comment les gens le font ailleurs et comment on peut améliorer nos propres procédures. Et c'est quelque chose qu'on aimerait certainement faire là, à l'avenir. Surtout, peut-être pour certains thèmes, par exemple la génétique, qui pour nous est un petit peu plus difficile parce qu'on est loin de ces grands centres-là. C'est extrêmement intéressant d'aller jeter un coup d'œil au CHUM ou à Sainte-Justine. Qu'est-ce qui se passe en génétique? Puis là, je nomme pas Québec parce que c'est plus loin simplement. Là, puis on n'a pas les moyens de le payer, mais... Mais dans Montréal, c'est plus facile. Et finalement, je vais conclure par la standardisation des formulaires de consentement en fonction des lois québécoises et canadiennes. Bon, je sais qu'on en a parlé beaucoup. Le FRQS, je suis toujours mêlé dans le FQRS ou FRQS. Dans mon temps, moi, c'était le F... je sais plus quoi, là. Ah, d'accord. J'ai déjà eu même un diplôme d'eux autres, je sais pas trop quoi, mais j'ai de la misère à nommer leur nom. Néanmoins... Ils vont nous mettre des chaînes là. Mylène va nous préparer un formulaire et ça devrait nous aider passablement. La problématique qu'on a avec les formulaires de consentement, c'est que plusieurs études en pharmacologie et en technologie sont issues de compagnies américaines avec le siège social aux États-Unis. Alors lorsqu'on nous envoie le formulaire de consentement, le texte est écrit comme un contrat médico-légal. En fait, il y a ce qu'on disait hier, c'est vraiment intéressant sur la littératie, mais je dois vous avouer que les compagnies américaines s'en foutent pas mal. Ils ont un contrat médico-légal à faire signer et nous, on est pris avec. Et c'est pas nous qui est pris avec, ce sont les équipes de recherche. En fait, les équipes de recherche et nous, Sylvie qui est responsable du comité chez nous, a la gentillesse de s'asseoir avec tout le monde puis d'essayer de mettre ça en français, là, mais c'est un peu difficile. Et ensuite, on le retourne en français, on pense qu'on a corrigé les mots correctement. Eux le retraduisent pour leur lire au New Jersey. Ensuite, ils le corrigent, ils nous le retournent en français corrigé, et là, il revient à Montréal, il est tout croche. Et c'est pas gérable. Et là, la roue part. Et là, on le réenvoie, on le revient, on le réenvoie, on le revient, et là, le chercheur est extrêmement mécontent. Et là, il aboutit dans mon bureau. Nous, c'est une petite institution, il y a 60 médecins, 70 docteurs à peu près chez nous, 70 docteurs, tout le monde se connaît, ça fait 25 ans que je suis là. Ils savent où est mon bureau, malheureusement. Puis quand je les vois arriver, je sais qu'ils viennent pas pour le plaisir, là, ils viennent m'engueuler comme faux, sérieusement. Bon, alors, c'est ça la problématique qu'on a. Je ne sais pas comment la régler. Je pense qu'on a fait tous les efforts possibles, imaginables de la planète Terre pour aller plus vite. Mais à un moment donné, on peut faire ce qu'on ne peut pas tout faire, ce qu'on est incapable de réaliser. Je pense que cet effort-là vaut la peine d'être fait. Tant mieux si l'industrie l'accepte. Il faudra voir, par exemple, en général, ils sont assez ingénieux pour faire le tour et arriver avec de nouvelles choses avec lesquelles on va être encore plus surpris. Néanmoins, je pense que c'est un effort qu'il faut faire. Enfin, on aura une certaine standardisation des formulaires. Enfin, on n'aura peut-être pas à se battre contre les compagnies pharmaceutiques. Il nous restera le français à corriger. Ça sera plus facile pour Sylvie, moins, mais je pense. Mais néanmoins, c'est un effort qui vaut la peine d'être fait. Alors, je vous remercie. Bonne réflexion. Je pense qu'on peut améliorer l'efficacité de la performance de nos comités. Il y a un certain nombre de choses dont on a besoin. On a besoin probablement, je dirais, plus d'aide du ministère que le multicentrique seulement. J'aimerais qu'on se concentre, qu'on nous donne aussi un certain nombre d'outils. Ce serait intéressant d'avoir des outils pour faire des audits internes, pour faire des évaluations de satisfaction de patients, satisfaction de chercheurs. C'est des domaines qui sont extrêmement intéressants. Et il faut le faire, mais actuellement, on est un peu avec les moyens très, très locaux, très, très de base. On tente de le faire, mais encore une fois, je pense qu'on peut sophistiquer beaucoup nos moyens pour être capable de faire un meilleur travail. Merci encore et bon après-midi.
On a le temps pour quelques questions, Dr. Carrier.
Moi, j'en aurais peut-être une. D'abord, merci, c'était très clair comme présentation. Est-ce que vous pensez que dans les indicateurs de performance, il y a une question aussi de volume d'activités de recherche que les membres sont appelés à examiner en comité?
C'est difficile à dire. Oui, peut-être. Je pense que, encore une fois, ce qui est toujours plus surprenant, c'est quand on affiche un sujet avec lequel on n'est pas familier. Et ça, c'est difficile. Maintenant, j'aurais tendance à dire que si vous voulez savoir ce qu'il y a un volume minimal et un volume maximal, je ne le sais pas. Je suis pas en mesure de vous le dire. Nous, on est une petite institution. On gère quoi? Une centaine de nouveaux projets par année. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas complètement débordé. Là, on n'est pas à l'extérieur de la capacité qu'on a à les traiter. Mais c'est clair que peut-être que dans certaines institutions, ça peut être problématique. Je pense que, puis à moins que les gens du comité me contredisent, je pense que nous, pour l'instant, avec le nombre de personnes dans le comité, et le volume d'activité qu'on a, on couvre assez bien les secteurs pour être confortable. Je dois avouer qu'en génétique, ça a été plus difficile au cours des 7-8 dernières années. Là, ça nous est apparu. Mais dans l'ensemble, il doit y exister une équation, effectivement, entre volume à traiter et travail à remplir. Bon, on verra là avec le nouveau mécanisme multicentrique, j'ai mes propres inquiétudes. L'une d'entre elles, c'est que ça augmente de façon considérable le travail au secrétariat et on verra un peu si on est capable de le tenir. Mais si on n'est pas capable de le tenir, à un moment donné, on aura peut-être à aller à la direction du centre de recherche et leur dire, écoutez, on a un problème, là, il faut que ça se règle. Mais on verra. Je veux dire, on verra. Là, je pense qu'il est un peu prématuré. On va le vivre et puis...
D'autres questions ou commentaires? Sinon, je vais inviter... Maître Deschamps à prendre le podium pour nous faire une synthèse de ces deux journées captivantes.
Alors, bon après-midi à tout le monde. C'est toujours agréable quand le docteur Awizi dit ce colloque-ci, c'est toi qui vas faire le résumé des deux jours de conférence. C'est un challenge, je vous dirais, en quelques mots, de pouvoir survoler ce qui a été dit et de vous livrer comme un message de clôture à rapporter chez vous avec les éléments les plus importants. Je vais laisser tantôt le docteur Awizi vous remercier tous. Je tiens à le faire personnellement. Vous avez été très assidus, très disciplinés, très attentifs, et c'est tout à votre honneur. Pour ce qui est des conférenciers, je voudrais vraiment les remercier, parce qu'on leur avait imposé une thématique qui était celle de la qualité, comment l'améliorer. C'était la thématique générale du colloque, Et on s'est aperçu, et vous vous êtes certainement aperçu, qu'ils ont répondu à la commande qui leur avait été faite, et chacun dans son domaine, exposant des particularités de son domaine, a quand même donné sa perspective sur comment améliorer la qualité. Et pour nous, c'était important, et vous avez pu le voir hier quand j'ai fait ma présentation, quelle importance j'accorde, oui, au respect des personnes, oui, à l'élimination du gaspillage, mais oui, à l'amélioration continue. Et si moi, personnellement, j'avais à vous donner un message, c'est demandez-vous comment vous pouvez vous améliorer quotidiennement dans ce que vous faites, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Quand ma fille avait 15 ans, j'avais mis au tableau de la cuisine deux mots. Excellence ou médiocrité. Et encore aujourd'hui, elle s'en trouve insultée. Parce qu'elle a dit, c'était de mettre sur mes épaules une pression trop grande. Et moi, je lui ai dit, écoute bien, dans la vie, ce qu'on cherche, c'est l'excellence. On veut avoir un excellent boulanger, on veut avoir un excellent cordonnier, on veut avoir un excellent fromager, un excellent mécanicien. On ne veut pas avoir des gens médiocres. Alors, si c'est nos attentes par rapport aux autres, bien, je pense qu'on devrait se faire un devoir de miser sur l'excellence. Et quand on regarde toutes les présentations, je vais essayer de les résumer très, très brièvement parce que c'est un vendredi après-midi et les gens ont hâte de rentrer à la maison. Comme je vous ai dit hier, je vous ai présenté mes propres réflexions en ce qui concerne une gestion de la qualité, une gestion de la gouvernance. Par la suite, nous avons eu Mylène Deschênes qui nous a parlé de l'importance de développer au sein de nos institutions une culture de l'intégrité. Et ça, je pense que c'est un message à rapporter. Comment développer une culture de l'intégrité? Elle nous a dit que celle-ci se bâtit au quotidien, jour après jour, dans toutes les petites activités que l'on fait. Et elle a insisté sur le fait que bâtir une culture d'intégrité, c'est un investissement. Et le terme investissement est encore revenu aujourd'hui, un investissement collectif pour assurer le succès en recherche. Donc, il faut investir dans ça. Et finalement, elle a insisté sur l'importance pour les CER d'avoir une vision commune de leur double fonction, à savoir celle de l'évaluation indépendante des projets de recherche, mais aussi une obligation de rendre compte. Richard Carpentier, lui, nous a fait voyager, je ne dis pas à travers le temps, mais à travers le monde. Il nous a présenté les pour et les contre, les avantages et les inconvénients de ce qui en ce qui concerne la révision éthique centralisée. Il nous a présenté un état de situation, tant dans les provinces canadiennes qu'à travers le monde. Et il a dit, en fait, qu'on n'avait pas à s'engager, finalement, ou on devait avoir comme interrogation, doit-on s'engager dans des processus qui n'ont pas de plus-value? Et ça, c'est une autre thématique qui est revenue. Demandez-vous, dans ce que vous faites, ou ce que vous voulez faire, quelle est la plus-value ajoutée? S'il y a une plus-value, que ce soit pour l'activité ou que ce soit pour les personnes, mais je pense qu'on doit aller de l'avant. Mais si ça n'apporte pas de plus-value, ça va être une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de ressources, ça va être un gaspillage. Michel Giroux et, j'ai dit ses collaboratrices, mais je vais y revenir, Michel Boivin, Lucie Guérard et Valérie Lemieux, parce qu'ils ont travaillé ensemble, et c'est Michel qui est arrivé avec cette idée-là d'avoir une thématique sur la littératie. Et je pense que tous et chacun dans la salle est très content que cette idée-là ait trouvé preneur au sein de ce colloque. Michel, qui est un fin philosophe et un homme plein d'humour, il a insisté sur l'importance d'accorder en recherche une attention particulière à la littératie. Je pense qu'il en fait une chose personnelle. Il a parlé de l'impact de la littératie sur l'autonomie de la personne. Et il a fait un lien pour moi qui est très important. Quand on y pense, pour moi, c'est d'une importance primordiale, avec la dignité de la personne. Littératie et dignité de la personne. Il faut que la personne comprenne, puis si elle comprend, bon, on respecte cette dignité. Il a également fait un lien entre la littératie et la justice, en termes d'accès aux soins. Si je ne comprends pas ce qu'on veut faire de moi, ou avec moi, je vais peut-être refuser. Mais là, je me prive d'un accès aux soins. Et il a dit que si je suis bien informé, je serai en mesure de bien participer. Et c'est là qu'on relève toute l'importance de la littératie. Lucie Guérard et Michel Boivin nous ont parlé du comment faire pour passer un message en insistant sur les éléments tels que la scolarisation, l'univers culturel, l'environnement social, la condition psychologique. Elles nous ont également parlé des obstacles à la compréhension ainsi que des facilitateurs. Je pense qu'on doit réfléchir sur ces éléments-là parce qu'ils sont revenus plus au niveau technique, renforcer ce que Michel nous avait dit au plan des idées, au plan théorique. On a présenté l'aspect technique du consentement, mais on a insisté également sur le fait que le consentement, c'est un outil de qualité. On a souligné l'importance d'investir le temps à la bonne place. Le temps nous est compté, là je ne parle pas de la vie en général, mais dans ce que l'on fait. Donc, il faut vraiment investir au bon endroit. Valérie Lemieux nous a parlé de communication écrite. Elle a parlé de littératie comme déterminant de la santé, de l'importance de changer nos stratégies à communiquer à l'écrit. Et ça, c'est important. On a des habitudes, on a nos façons de faire, mais ce qu'elle est venue nous dire, c'est qu'il faudrait penser différemment. Et si en écrivant des choses, le message ne passe pas, il faudrait peut-être chercher ailleurs. Il a souligné au passage qu'assurer une bonne communication, une bonne compréhension est une obligation éthique. Et s'il y a un domaine où est-ce que, je dirais, nous sommes faibles, c'est que trop souvent, on accepte des choses qui sont inacceptables. On accepte des formulaires de consentement qui, même à nos yeux, sont incompréhensibles. Pour moi, il y a un principe éthique qui dit que accepter l'inacceptable est inacceptable et pas éthique. Et là, je me mets tout le monde dans le même bateau, moi y compris. On a tendance, parfois, à accepter ce qu'on considère inacceptable. Comme disait le docteur Carrier il y a quelques instants, on arrive avec des formulaires qui n'ont pas de bon sens et sous la pression de X, Y, Z, on les accepte. Et ça, c'est peut-être au détriment des participants. Il a présenté quelques solutions pour améliorer la transmission de l'information par écrit. Sylvie Lacroix et Isabelle Cloutier nous ont parlé des efforts déployés à l'Institut pour améliorer le processus de consentement axé sur les quatre éléments de la roue de Deming. Des fois, ça me fait plaisir quand je vois la roue de Deming, je me dis, tiens, mon enseignement, il porte des fruits. Enfin, j'espère que j'en verrai un peu plus. Et ils ont souligné la collaboration qui s'est instaurée entre les CER et une équipe de recherche. Et ça, ils ont expérimenté sur le terrain comment un CER, tout en gardant son indépendance, peut travailler avec des équipes de recherche pour améliorer la qualité du travail qui est fait. Ils ont insisté sur l'importance de développer des processus de qualité. Ils ont souligné que la qualité est difficile à définir, mais on peut la développer des indicateurs de qualité. Puis là, c'est à vous de voir quel indicateur on peut développer. Elle a souligné l'importance de rendre la qualité tangible. Il faut que ça se voit, il faut que ça se touche. C'est comme on voit un tissu, on se dit c'est de qualité ou pas, mais quand on le touche, on dit ça, là, c'est du bon coton, ou ça, c'est de la bonne laine. Elles ont souligné la confection d'un formulaire de consentement de qualité est un travail de collaboration, encore la collaboration qui revient. Il faut que la qualité soit présente à chaque étape du processus de consentement. Ça, c'est du début du processus de consentement, quand on confectionne le formulaire de consentement. Puis avec ce qui a été dit ce matin, il faudrait même penser avant même qu'on le formule si on fait de la publicité. Ils ont présenté des moyens alternatifs que l'écrit pour communiquer l'information. Louise Rinquette nous a présenté les enjeux reliés à une demande d'autorisation à la CAI, notamment en termes de délai. Elle a insisté sur ce que constitue une demande efficace. C'est une demande qui est complète. Ce qui veut dire que quand vous faites une demande, ça c'est un autre principe que je n'ai pas évoqué, mais qui est fondamental, le souci du détail. Il faut avoir le souci du détail. Et si vous avez le souci du détail, et si vous regardez tout ce qui doit être fait, puis c'est bien fait, puis c'est bien fait de la première fois, on va avoir beaucoup moins de problèmes. Parce que très souvent, on ne fait pas bien la première fois, et on est obligé de faire et de refaire et de refaire. Et ça, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent, c'est du gaspillage. Et quand on fait ça, une petite lumière qui devrait s'allumer et dire « gaspillage, gaspillage, pas éthique, pas éthique ». Elle a décrit ce qui devrait contenir une demande en termes de contenu. Elle a présenté le rôle de l'analyste, souligné l'importance du travail d'équipe, de travailler ensemble. L'accès à l'information personnelle sans le consentement d'une personne a été vu comme un privilège ou une exception. Je pense que les choses ont été claires. C'est pas de droit qu'on peut obtenir des informations sans le consentement. Elle a indiqué comment on peut améliorer la qualité des dossiers qui sont présentés. Et ça, je pense que ça voudrait donner des lignes directives sur comment aborder ces questions-là. Manzawati a souligné que la recherche, aujourd'hui, elle est globale, elle est même internationale. Il a parlé de l'internationalisation de la recherche. Il a mis l'emphase sur le principe de l'altruisme et de la solidarité. Et c'est un peu comme si, en droit, et peut-être que le droit est fautif à cet égard, on parle souvent d'autonomie, on parle d'autonomie individuelle. Alors qu'il faudrait peut-être réfléchir à un autre type d'autonomie qui est l'autonomie, comme il l'a présenté, relationnelle. On est autonome, mais en relation avec les autres. Et ça peut changer peut-être nos façons de voir les choses. Alors moi, je vous encouragerais à penser à cette notion d'autonomie relationnelle et non pas en termes d'autonomie individuelle. Il a souligné l'importance de maintenir la confiance. Il a souligné que c'est l'altruisme qui nous amène souvent à participer à une recherche. Que les gens s'attendent à ce que le matériel qu'ils fournissent soit utilisé pour le plus grand bien-être des autres. Très souvent, en oncologie, les gens participent à des projets de recherche. On sait fort bien qu'ils n'en tireront aucun bénéfice, mais c'est pour ceux qui viendront après. Et c'est là que toute cette solidarité humaine-là s'est donnée pour le suivant sans connaître l'identité du suivant. Ça, c'est de l'altruisme. Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est un peu ça qu'il, je pense, qu'il se dégage de ce qu'il disait. Que le matériel soit utilisé dans le futur pour des fins scientifiques, mais il a toujours dit avec un encadrement éthique approprié. Il a beaucoup insisté que si on fait des choses qui présentent peut-être un peu plus de risques, il faut renforcer l'encadrement éthique. Il a souligné la différence entre le consentement général, le broad consent, le blank consent. Il a souligné aussi l'importance de partager les données tout en protégeant la confidentialité. Mais quand il dit partager les données, je pense qu'il a utilisé le terme de façon responsable. Annick Nollet, Nathalie Lecoq et Simon Coulombe, puis ça se demandait s'ils ne devraient pas faire partie de groupes d'improvisation. Moi, je les ai trouvés très, très bons. Ils devraient peut-être s'inscrire dans des... Et ça aussi, ça, c'est un apport de Michel. Michel, il est surprenant des fois dans ses... il faut y faire confiance parce qu'il dit, oui, vous allez voir ça, ils vont faire une petite... Puis là, on voit des gens qui font une mise en scène. Je pense que ça rehausse le colloque, puis ça change un petit peu. Des fois, on est un petit peu constipé par certaines thématiques, je ne dis pas certaines présentations, mais certaines thématiques. Mais dans un jeu de rôle, ils ont abordé la question du recrutement par le web, par les médias sociaux, de participants à la recherche. Et à partir d'un cas fictif, on se rappelle du Dr. Tweet, Ils ont analysé les enjeux éthiques et juridiques, notamment ce qui concerne la vie privée et la confidentialité sur le web. Dans quel domaine on est? Est-ce qu'on est dans la sphère publique ou dans la sphère privée? Si je participe à, je crois, un réseau, mais c'est un réseau fermé, ça peut être privé, mais si c'est un réseau ouvert, ça peut être public. Ils ont aussi souligné la nécessité d'adopter des formulaires de consentement qui est adapté à cette réalité-là. Des formulaires de consentement où est-ce que les gens comprennent la réalité des enjeux reliés à l'Internet et au Web, et de développer des meilleures pratiques en matière de sécurité et d'essayer de voir c'est quoi les attentes de vie privée. Je dois vous dire que c'est un domaine en pleine évolution ou en pleine ébullition. Et souvent, on a de la misère à distinguer ce qui est privé ou ce qui est public. On a fait des efforts pour avoir des lois sur la protection de la vie privée. Puis là, on s'aperçoit que toutes sortes de choses qui se retrouvent sur Facebook, sur Twitter, et j'en pense, c'est des meilleures. Anna Marin a abordé la question de l'affichage web et a analysé les enjeux éthiques relatifs au recrutement par différents mécanismes comme les bannières et les affiches. Elle s'est demandé c'est quoi le rôle du QCER et de son interaction avec les compagnies. En ce qui concerne le recrutement, il faut regarder les différents modes, affiches, journaux, courriels. Le message est-il compréhensible? Les informations sont-elles pertinentes? En ce qui concerne le recrutement sur le web, il faut déterminer quelle est l'interface, la source. Il y a des sources locales, des sources internationales. La nature de la protection qu'on va offrir aux gens. Et chose intéressante qu'elle a souligné que la publicité, c'est le début du consentement. Ça, je dois dire, je ne l'avais jamais entendu. Mais quand on réfléchit, la publicité, c'est vrai que c'est le début du consentement. Quand vous mettez une affiche dans une université ou dans un hôpital, pour dire projet de recherche sur le vieillissement, déjà, il y a de l'information qui... Puis ça peut amener la personne à dire oui ou à dire non. Docteur Cournoyer a abordé la question du professionnalisme. Il a insisté sur le fait que les gens des comités d'éthique doivent être des membres, on dirait professionnels, mais quand on parle de professionnels, on parle de compétences. Il a effleuré la question de la rémunération. Il a dit aussi que jusqu'à un certain point, il faudrait peut-être envisager avoir des membres de comités d'éthique qui ont une fonction exclusive, à savoir qu'ils consacrent le temps qu'il faut, ils sont rémunérés en conséquence. C'est pas quelque chose qui se fait sur le coin de la table, puis c'est pas quelque chose où est-ce qu'on peut être distrait par toutes sortes de choses. Quand on y pense, les enjeux sont majeurs et peut-être certainement, les ressources ne sont pas toujours au rendez-vous. Comme il dit, on ne peut pas toujours avoir les mêmes attentes vis-à-vis un bénévole qu'une personne rémunérée. Non pas qu'un bénévole, parce qu'il y en a plein de bénévoles, ne font pas un bon travail, mais si on augmente la charge de travail, c'est qu'à un moment donné, on ne joint pas, comme on dit, les deux bouts. Il a dit qu'en échange de la multiplicité des révisions éthiques, il faut des révisions qui soient rigoureuses et exhaustives. Il y a un prix à payer pour, si on réduit 15 évaluations à une évaluation, il faut être certainement sûr que l'évaluation va être faite par des gens compétents qui ont les ressources. Et ça demeure un point d'interrogation. Il plaide pour la nécessité de renforcer l'expertise des CAR à tous les niveaux et s'interroge sur la pertinence de l'introduction de comités thématiques. Monsieur Simard a parlé de la formation des chercheurs, puis il a dit que la formation des chercheurs, ça vise, dans le fond, à offrir une meilleure protection aux participants. Puis quand on y pense, c'est vrai. Donc, c'est le besoin de formation et la nécessité de formation. S'il y a un lien entre formation et protection, plus j'augmente la formation, plus peut-être que je vais augmenter la protection des sujets de recherche. Si ce lien-là est véridique, ben il faut investir dans la formation. Il a dit aussi qu'il faut concevoir l'apprentissage comme un continuum. Puis il faut saisir les possibilités d'apprentissage. Que les possibilités d'apprentissage, souvent, c'est sur le terrain. Comme on disait, un chercheur dit, « Ah, j'ai un problème au niveau de telle chose. » On dit, « Parfait, content, un problème. » Un problème, c'est une source d'apprentissage. Hein? Ça, si on oublie. C'est pour ça que chez Toyota, Taishi Ono, quand quelqu'un avait un problème, il était tout content. Parce qu'il dit, il va apprendre. Puis ça, c'est vrai. Puis c'est un apprentissage sur le terrain. Saisissez toutes les occasions. Quelqu'un dit, ah, oh, j'ai un problème avec ça. OK, on va s'asseoir, puis je vais y revenir. Et que ça doit être vu comme un continuum. Il faut maximiser les échanges entre les chercheurs biomédicaux et les chercheurs en éthique. Il nous a démontré que la formation en éthique doit trouver sa niche dans la formation des chercheurs. Et tout ça dans une perspective d'intégration. Et il a dit à nouveau et à plusieurs reprises que la formation, ce n'est pas une dépense, mais un investissement. Mais ce n'est pas toujours compris des autorités hospitalières qui souvent, puis on regarde dans le réseau, qu'est-ce qu'on fait? On coupe sur la formation. Il y a peut-être beaucoup de vos collègues qui n'ont pas pu venir ici parce que leur institution disait, on ne peut pas payer votre déplacement, on ne peut pas payer ci, on ne peut pas payer ça. Parce qu'on voyait ça comme une dépense. Là, il y a un changement, comme je vous disais, de mindset. La culture est dans un sens, mais le mindset doit changer. Docteur Simard avait bien compris ça, puis je pense que c'est un exemple à suivre. Emmanuel Lévesque parle du rôle de comment mener un chercheur à s'intéresser à l'éthique. Elle insiste sur le fait que la formation est dans un continuum. Elle explique le pourquoi de favoriser l'établissement de la formation, que l'apprentissage est maximisé quand on appelle quelqu'un à résoudre un problème. Ça, c'est fondamental. Quand quelqu'un a un problème, tu dis, on va s'asseoir et on va voir comment ensemble ou en groupe on peut le résoudre. C'est les meilleures occasions d'apprentissage qui puissent exister. Puis après ça, on arrive un petit peu, on arrive certainement avec de la théorie. Une priorité chez les chercheurs de trouver une solution à un enjeu éthique, saisir l'opportunité qui s'offre de se former lorsqu'un enjeu éthique survient. Il a présenté différents moyens de formation. Il faut impliquer les gens dans l'éthique dès le départ. Comme je dis souvent, l'éthique, c'est pas la cerise sur le sundae. C'est le levain dans la pâte. Que si vous mettez la cerise sur sundae, la cerise, elle va disparaître bien, bien vite. Hein? D'un coup de dent, là, elle est partie. Votre fils la prend, puis c'est fini, il n'y en a plus d'autres. Il y en avait juste une. Mais le levain, il est comme disséminé dans la pâte. Donc, ça doit être à toutes les étapes de l'élaboration d'un projet. On parle d'une approche qui favorise la rétroaction, puis insiste sur le rôle éducatif des CER. Vincent Lajoie aborde la thématique de la fonction du conseil auprès des chercheurs, trouver une solution concrète à un problème réel. Encore là, on revient, et ça, je pense que c'est déterminant. Saisir l'opportunité de formation en éthique, être un partenaire du chercheur de la résolution des problèmes, utiliser divers moyens, dont l'accompagnement particulièrement. Puis il faut utiliser profiter des multiples fenêtres d'opportunités lors de différents événements qui surviennent. Enfin, le docteur Carrier a abordé la question de la performance des comités d'éthique. Comment améliorer la performance des comités d'éthique? Il a insisté sur les thèmes performance, qualité et révision. Il a relaté, en fait, ses propos sont inspirés de son expérience depuis 10 années. Pour lui, le travail d'un CER dépasse simplement la révision éthique. En éthique, la qualité est multidimensionnelle. Elle est orientée vers le patient. La révision est orientée vers le patient. La formation est orientée vers le participant, ou appelons ça participant. On voit pourquoi est-ce qu'on se forme, puis pourquoi on revise, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête, c'est le participant. Puis généralement, un participant qu'on ne verra jamais, mais pour lequel on doit avoir beaucoup, je dirais, de caring, en sachant fort bien que ces gens-là acceptent de mettre en jeu un peu leur intégrité, leur vie, de supporter des effets secondaires, même pas pour un bénéfice pour eux. Là, moi, j'ai un très grand respect pour les participants, on devrait tous l'avoir, puis si on a du respect pour eux, bien, on va avoir à cœur de se former, on va avoir à cœur de bien faire notre travail, puis comme disait le docteur Carrier, La qualité, c'est le travail bien fait. Puis ça, vous ne devez accepter aucun compromis. Vous devez rester debout. Et quand quelqu'un vous dit non, non, je regrette, là, mais insistez auprès des gens. Pour mesurer la qualité ou la performance, il y a différents éléments qui sont quantitatifs, le temps, les taux, il y a des différents éléments qui sont qualitatifs. Alors, comment améliorer la qualité de la performance au travail? Bon, il y a la formation continue en éthique, il y a des systèmes de monitoring, différents mécanismes auxquels il a fait référence, il y a des questionnaires, des visites sur le terrain. Visites sur le terrain, ça se fait de moins en moins. Durant 6 ans, j'ai fait des visites pour NCARE, j'étais président du comité d'évaluation. On est allé dans différentes universités et dans différents comités d'éthique. Et là, on n'allait pas évaluer le comité d'éthique, on allait évaluer l'institution. Puis là, on commençait par en haut. Puis là, on demandait en haut, vice-recteur d'une université, comment ça va? Ça va très, très bien. On est au-dessus de nos affaires, on a une personne qui gère le comité d'éthique qui est exceptionnel, puis elle gère le comité des animaux, puis elle s'occupe de ci, puis elle s'occupe de ça. C'est vraiment notre star. Puis là, on descendait un petit peu plus bas, puis comment ça va? Ah, ça va bien. Là, on est arrivé au comité d'éthique, puis des chercheurs, comment ça va? Ça va pas pantoute. En haut, ils ne savaient pas ce qui se passait en bas. Ça se demandait s'ils étaient intéressés. Et je me rappelle, dans cette réunion-là, 15 minutes avant de partir, la personne qui était le star a dit « Je pars dans 3 semaines. » Ah bon? Ça va être remplacé par quelqu'un qui ne pouvait pas. Vous voyez comme un disconnect entre en haut et en bas. Est-ce que les gens connaissent vraiment ce que vous faites? Ben, ils le savent par les rapports des comités d'éthique qui sont acheminés au conseil d'administration. Mais un rapport, c'est un rapport. La réalité terrain, on la voit pas. Donc, du monitoring, des questionnaires, des visites sur le terrain, la proximité, c'est important parce que c'est là que ça se passe. Et comme je vous ai dit hier, ce qui est important, c'est le travail que les gens font sur le terrain. C'est là qu'est l'expertise, c'est là que sont les connaissances, c'est là qu'est la créativité et c'est là qu'il faut travailler. Il a également finalement parlé d'échanges, de rencontres, de discussions. Et il a terminé là-dessus. Alors moi, je vais terminer là-dessus. J'ai essayé en peu de mots, en peu de temps, de vous faire retenir certains éléments. Ce sera tout mis, je pense, sur le site. Et en mon nom personnel, puis au nom de Michel, puis au nom de Bruno. Et Bruno est un être fantastique. Je sais qu'il n'aime pas ça qu'on dise ça, là. Mais on a travaillé 1 an ensemble. Il est d'une efficacité, d'une douceur, d'une amabilité. C'est une joie de travailler avec lui. Et comme on dit, il mène la barque, puis la barque, elle s'en va droite, et il sait travailler en équipe. Alors, comme il ne viendra pas se remercier lui-même, je tiens à le remercier au nom de Michel, personnellement, pour l'excellent travail.
Moi, la seule chose, c'est pour vous remercier d'avoir fait les déplacements. Je remercie aussi les conférenciers, les présidents de session. Et puis, il y avait un groupe, c'était le groupe préparatoire. Je les remercie beaucoup. Et mes deux copains, je vous remercie. Donc, notre prochaine conférence téléphonique, c'est peut-être mardi ou mercredi.